Vous écoutez RTL.
Il y avait très exactement au 1er juillet 69 375 personnes incarcérées en France. Le problème, c'est que c'est 11 000 de plus que le nombre de places disponibles dans notre pays. Et on l'entendait dans le journal, Manuel Valls et son ministre de la Justice ont interrompu ce matin leur congé pour aller visiter justement la maison d'arrêt de Nîmes. Ils ont annoncé qu'un plan serait présenté à l'automne. Avec nous en ligne dans RTL Soir, le garde des Sceaux. Bonsoir Jean-Jacques Urvoas.
Bonsoir.
440 détenus pour 192 places. La maison d'arrêt de Nîmes que vous avez visitée ce matin avec Manuel Valls est la plus surpeuplée en métropole. On va parler dans un instant de ce que vous comptez faire, mais d'abord, évidemment, sans tout vous mettre sur le dos, puisque vous êtes ministre depuis quelques mois, quand on est garde des Sceaux, qu'on visite un établissement comme celui-là, est-ce qu'on ressent un peu de honte ?
On ressent de la gratitude d'abord pour les personnels qui servent dans ces établissements. Donc quand on me parle de suroccupation ou de surpopulation, on pense aux détenus, et évidemment, on a raison, puisque ça leur impose des conditions de détention qui sont pourtant dégradantes, parce que la France ne devrait pas avoir des établissements dans un si mauvais état et dans des conditions de détention si dégradées, mais aussi de la gratitude pour ce service au quotidien, pour le bien social, puisque les prisons sont un outil indispensable au fonctionnement d'une démocratie.
Alors nous ne sommes pas garde des Sceaux, nous ne sommes pas en charge de la politique pénitentiaire, mais on se dit, dans une situation comme Nîmes, la seule solution, c'est de construire une deuxième maison d'arrêt. Pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Parce que c'est cher ? Parce que c'est long ?
C'est ni cher ni long, c'est indispensable. Simplement, il ne faut pas générer des chimères. À Nîmes, depuis 2003, vous avez des annonces de garde des Sceaux successives disant « on va faire » et on ne fait jamais. Il faut évidemment construire des places de prison. Mais une fois que l'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose.
Pourquoi c'est compliqué de construire des places de prison ?
Ce n'est pas difficile d'annoncer la construction. C'est beaucoup plus compliqué de la réaliser, nonobstant parce que les riverains sont rarement ravis de voir un établissement s'installer et qu'il y a toujours des recours dans les tribunaux.
Est-ce qu'il ne faut pas faire appel au privé dans des situations comme celle-là et se dire que des partenariats publics-privés ou une gestion cédée au privé pourrait être une manière plus rapide de construire des places de prison ?
Alors, ça serait de fait beaucoup plus rapide. C'est probablement aussi beaucoup plus onéreux. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui remonte à 2011 qui met en garde l'État en disant « Attention, dans l'immobilier carcéral, c'est une course budgétaire sans fin. Annuellement, il y a en ce moment 190 millions qui servent à payer des constructions confiées au privé, alors qu'il n'y a que 60 millions consacré à l'entretien des bâtiments existants. Et donc ça vous montre ce que ça pèse. Le paradoxe, c'est que quand vous faites un partenariat public-privé, oui, vous construisez vite, mais vous payez longtemps. Le président de la République avait annoncé pour son quinquennat 500 emplois dans la justice pendant les 5 ans. Ça fait donc 2500 personnels de surveillants. On est déjà au-delà. Donc, en termes de postes, j'allais dire, les choix politiques ont été faits depuis plusieurs années. Maintenant, il faut leur donner les moyens d'exercer et puis surtout leur donner envie de rester dans l'administration pénitentiaire, puisque le métier est tellement difficile, les conditions de travail sont tellement compliquées que ceux qui viennent de rentrer dans l'école, d'ici 3 ans, un tiers d'entre eux sera déjà parti, estimant que c'est beaucoup trop difficile.
Alors, à Nîmes, on n'est pas très loin de Lunel, l'une des villes en France, malheureusement symbole de la radicalisation djihadiste. 5 unités spéciales pour ces détenus sont expérimentées depuis le printemps. On laisse les djihadistes entre eux. Quand est-ce que vous allez faire un premier bilan, décider finalement si c'est une voie à suivre, à poursuivre ailleurs ?
À la fin septembre, puisque ces unités ont été ouvertes au début de l'année. Il faut maintenant évaluer, est-ce que le fait de les regrouper n'est pas quelque chose d'aggravation de la difficulté, puisqu'on permet peut-être des phénomènes de groupe qui n'existaient pas auparavant, ou est-ce qu'il ne faut pas mieux les disséminer, ce qui peut sembler plus facile pour la surveillance, mais peut créer un risque de
prosélytisme,
diffusion d'une idéologie. Mais c'est une expérience qui est très difficile à évaluer puisqu'elle est originale. Quand je discute de cela avec les autres ministres de la justice, j'ai des réactions très contrastées. Le Royaume-Uni a connu ce type de regroupement avec l'IRA et le ministre de la justice anglaise est très hostile au regroupement puisque ça a donné des caractères détonnants pour les détenus de l'IRA, alors que les Italiens ont connu ça pendant les Brigades Rouges et ils sont plutôt favorables. Donc j'ai un regard tout à fait prudent sur cette semaine. Un excès de prudence ne nuit jamais pour que le travail de l'évaluation se fasse avec suffisamment de temps pour qu'on n'ait pas une foucade ou simplement une pulsion comme raisonnement, mais qu'on puisse construire quelque chose de durable.
Mais est-ce que ça concernerait des gens condamnés pour terrorisme ou des détenus plus largement radicalisés, plus ou moins radicalisés ?
Alors, vous avez raison, il faut toujours être extrêmement précis, parce que radicaliser ne veut pas dire terroriste. Vous avez aujourd'hui dans nos prisons probablement autour de 1700 personnes que nous estimons radicalisées. Mais vous n'avez que 100 personnes condamnées pour terrorisme et 300 personnes qui sont en prévention pour des faits liés à l'apologie ou au terrorisme. Donc toutes ces catégories ne se valent pas. La surveillance est évidemment indexée sur la dangerosité.
Vous dites 1700 détenus plus ou moins radicalisés à des degrés très divers. Comment faire pour les surveiller particulièrement, pour vérifier qu'il n'y a pas des phénomènes d'embrigadement et peut-être même de préparation d'actions terroristes à la sortie ?
La réponse est dans deux domaines. D'abord, il y a le renseignement pénitentiaire, qui est une structure dont beaucoup parlent depuis longtemps, votre serviteur y compris, mais qui mérite encore d'être construite. Le chantier est très largement lancé. Ce sera un outil de détection de la radicalité.
Mais ce ne sont pas les surveillants qui seront chargés, par ailleurs, de collecter les informations pour le renseignement pénitentiaire ?
C'est ce que nous avons besoin de définir dans la doctrine. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de personnel chargé de la collecte de l'information. Ouais. Toute personne dans un établissement est en capacité d'avoir un élément, un renseignement. Mais tous ne seront évidemment pas des agents de renseignement. Mmh. Puisque l'agent de renseignement, ça sous-entend une capacité d'analyse, une capacité de prospective, une capacité de contextualisation. Et on ne va évidemment pas demander ça à l'ensemble des personnels de surveillants dans les concifs. L'autre élément pour bien permettre de repérer les tentations de radicalité, c'est l'unité des éléments transmis dans la détention. Il y a plusieurs administrations qui interviennent, les services d'insertion et de probation, le service de prise en garde médicale, le personnel directement de surveillance, et y compris ce matin à Nîmes, nous constations que les dossiers ne sont peut-être pas nourris par tous les intervenants de manière aussi forte qu'il serait souhaitable.
Merci Jean-Jacques Urvoas d'avoir été l'invité de RTL Soir. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux. Bonne journée, bonne soirée.